Chapitre 6 Une fâcheuse rencontre. Domingo s'était vanté. Ses pouvoirs de mascotte avaient fait faillite. Toutes nos expéditions avaient été stériles. Nulle trace n'apparaissait à nos yeux inquisiteurs de la mystérieuse danseuse admirée un soir d'été. Mais si la présence de Domingo n'amenait pas de résultats pratiques, du moins présentait-elle le grand avantage d'atténuer l'amertume de mes déceptions et de m'aider à supporter la déveine qui me poursuivait. Il m'aurait été difficile de trouver un compagnon plus alerte et plus affectueux que Domingo. Jamais il ne se décourageait. Et lorsque, au retour d'une randonnée infructueuse, il voyait la tristesse assombrir mon visage, d'un mot, il me redonnait de l'espoir. Ne vous désolez pas, mon ami, nous n'avons pas encore tout exploré. Demain, nous repartirons de bonne heure, et ce sera bien le diable si cette fois nous ne trouvons pas trace de votre Majora. Domingo n'avait d'ailleurs pas tort de m'inciter à persévérer dans mes démarches recherches, car il m'arriva un jour de faire une rencontre qui me redonna quelques motifs d'espérer. Nous remontions un après-midi la populeuse rue de Belleville, si animée avec ces femmes en cheveux qui viennent acheter leur victoire aux marchandes des quatre saisons dont les voitures stationnent le long des rails du funiculaire, quand j'aperçus tout à coup, dans un groupe de badauds, une silhouette connue. Autour d'un chanteur ambulant qui lançait une romance sentimentale accompagnée par un violon grinçant, des midinettes, des ouvriers formaient le cercle, reprenant en chœur le refrain. L'un des mélomanes les plus convaincus était un solide gaillard, à la chevelure noire comme de l'encre, présentant le type classique du Lazzarone. Dans ce personnage, je ne tardais pas à reconnaître le compagnon de la danseuse, avec qui je me colletais un soir si rudement. Je ne sais combien le sang fait habituellement de tours dans le corps humain, mais je sais que dans le mien, à la vue de cette escogriffe qui pouvait me fournir des renseignements sur celle que j'aimais, il n'en fit qu'un. À la manière d'un jaguar dans la jungle, je bondis. Mais la jungle est un excellent terrain pour les bons, bien meilleur que la rue de Belleville, qui était encombrée de passants, de voitures, de tramways et de véhicules de toutes sortes. Que se passa-t-il exactement? Je l'ignore. Au moment où je prenais mon élan, Domingo s'accrocha désespérément au pan de mon veston, comme s'il eût voulu me retenir et m'empêcher de rejoindre l'homme avec qui je désirais passionnément entrer en contact. Avait-il vu le personnage et son aspect lui avait-il causé une émotion telle qu'elle le rendit malade? Je ne pouvais l'imaginer. Il aurait été vraiment étonnant que mon compagnon connût ce mystérieux musicien. Toujours est-il qu'il poussa un léger cri et que je n'eus que le temps de le recevoir dans mes bras. Le malheureux perdait connaissance. Je ne pouvais évidemment pas le laisser en pleine rue, inanimé, pour courir après un problématique individu qui risquait de me glisser entre les mains comme une anguille dans celle du pêcheur. Je pressais sur ma poitrine Domingo, qui, pareil à un bambin câlin et apeuré, avait passé ses bras autour de mon cou et gémissait très doucement. Cependant, j'avais réussi à remettre le jeune homme sur pied. La conscience lui revenait, ses yeux se rouvraient. Oh, pardon, murmura-t-il, j'ai eu un étourdissement. C'est stupide, excusez-moi. Je m'empressai alors de fouiller la foule du regard. Si j'avais la chance de retrouver mon gaillard. Mais le public dans les rues de Paris s'écoule comme les vagues marines. Les groupes se forment et se reforment incessamment. Aucun visage familier ne s'offrait plus à ma vue. L'ami de la danseuse avait disparu, et je demeurais au milieu de la chaussée. Domingo, encore chancelant, à mon bras, pestant contre moi et contre l'univers entier, car je venais de perdre là une occasion de percer le mystère de ma baïanère parfumée. Rêvais-je? Je crus discerner sur les lèvres de mon ami un sourire ironique. Ben, c'était sans doute une illusion. Chapitre 7. Mademoiselle de Maupin. Ayant réussi à hélérer un taxi, je m'empressai de m'y engouffrer avec Domingo. J'avais hâte d'être rentré, afin de permettre à mon camarade de prendre un repos dont il avait certainement grand besoin. Durant le trajet, Domingo avait appuyé sa tête contre mon épaule. J'avais eu l'impression très nette que c'était davantage par câlinerie que par suite d'un malaise persistant. Aussi, lorsque je me retrouvais avec lui dans mon appartement, ne m'inquiétais-je plus outre mesure. Je pensais qu'un quart d'heure de repos suffirait à remettre complètement d'aplomb le jeune homme. Je l'engageais donc à aller s'étendre rapidement sur son lit. « Oh, je me sens beaucoup mieux, me dit-il. Et dans 20 minutes, je viendrai vous rejoindre, le temps de changer de vêtements. » Et, souriant mystérieusement, il ajouta, « Je veux me parer ce soir, et par mon élégance vous dédommager de votre déconvenue de tantôt. » Que l'élégance de Domingo me fit oublier mes ennuis, l'idée m'en paraissait quelque peu saugrenue, mais je n'y prêtais pas autrement attention, et je vaquais en toute sécurité à mes affaires ordinaires. Cependant, 1 heure avait passé et Domingo n'était pas venu rejoindre dans mon cabinet de travail, comme il avait l'habitude de le faire après nos promenades. Tous deux, enfoncés dans des fauteuils capitonnés, nous récapitulions les incidents de la journée en fumant des cigarettes orientales et en buvant des tasses de thé dont il se montrait fort friand. Légèrement intrigué donc par cette absence insolite, je me dirigeais vers la chambre que Domingo occupait dans le fond de mon appartement. Nul bruit ne parvenait à mon oreille, et j'imaginais alors que mon ami, harassé par les fatigues de l'après-midi, s'était endormi. Je m'approchais à pas de loup, glissant doucement, retenant mon haleine. Avec la légèreté d'un rat d'hôtel, je posais la main sur la poignée de la porte, craignant d'éveiller le jeune homme. Vaine précaution ! Au grincement, si étouffé fut-il de la porte entrebâillée, succéda une plainte effarouchée, suivie immédiatement d'un cri de surprise que je poussais moi-même. Je me frottais les yeux, je me pinçais les joues. Rêvais-je ou étais-je le jouet d'une hallucination ? Une fée, d'un coup de baguette magique, avait-elle transformé mon logis en palais enchanté ? Et le nouveau prince charmant, venais-je de découvrir une nouvelle belle au bois dormant ? J'avais quitté Domingo, frêle garçon ayant besoin de repos, et je retrouvais une jeune femme dont la sculpturale beauté m'éblouissait. Une forme féminine, sans le moindre voile, debout devant une glace qui reflétait la pure image de son corps. Tel était le spectacle qui s'était offert à ma vue. Ombre charmante de mademoiselle de Maupin, vous ne troublâtes pas davantage d'Albert lorsqu'il découvrit la splendeur de votre ventre et de vos seins, que je ne le fus en admirant le corps souple, gonflé comme un beau fruit doré par le soleil de cette mystérieuse inconnue. La stupéfaction m'avait cloué sur le seuil de la porte. Et je restais ainsi figé, debout comme un archange à la lisière du paradis terrestre, partagé entre l'admiration et le trouble voluptueux où me jetait cette vision. Cependant, le désir impérieux l'emportait en moi sur la contemplation désintéressée, et je me précipitais sur cette radieuse forme. Mais quel enchantement nouveau s'opère! Devant mon geste, la jeune femme effrayée s'était penchée, saisissant sur un pouf une fine chemise de soie mauve dont elle tentait de recouvrir sa nudité. En remuant son visage, qui jusqu'à présent était demeuré dans la pénombre, m'apparut sous la pleine lumière d'une lampe électrique, et je tressaillis alors, inondé d'une joie délirante et imprévue, car ce teint mat, ce nez aux ailes palpitantes, cette bouche minuscule aux lèvres si rouges qu'elles semblaient avoir été mordues, ses yeux largement tendus, caressants et froids, prometteurs de volupté farouche. Ce sont les traits de la danseuse qu'à travers Paris, depuis des semaines, je cherche sans répit. Que m'importent ces gestes de pudeur alarmée? Je bondis et je serre contre ma poitrine la danseuse demi-nue. Ses vêtements féminins gisent à côté d'elle. Elle s'apprêtait à les revêtir quand je suis entré. Je comprends maintenant sa mystérieuse promesse de se parer pour effacer dans mon esprit l'amertume des déconvenues éprouvées dans la journée. Mon élan est si impétueux que la danseuse ne cherche plus à y résister et qu'avec tendresse, elle en serre mon cou de ses bras nus. Puissance de l'amour, volupté divine, comme s'écriaient autrefois les romantiques. Son visage touche mon visage. Je respire son haleine tiède. Je sens sur mes joues la caresse de ses cils. L'excès de bonheur m'anéantit à un tel point que je ne m'étonne plus de posséder celle que j'avais crue inaccessible et que je n'interroge pas sur son extraordinaire métamorphose. Et la voici qui, câlinement, se met à m'expliquer sa magique présence. Sa voix me semble plus douce, ses intonations plus tendres. « Mon chéri, » me chuchota-t-elle, « protégez-moi, de grands dangers me menacent. Non, 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 ne bougez pas, laissez-moi vous expliquer. Vous êtes étonné, n'est-ce pas? La transformation de Domingo en Conchita. Oui, monsieur, vous savez maintenant mon prénom, vous paraît surnaturel. Si je vous plus, certaines nuits, où je dansais dans un bar enfumé, vous ne me fîtes pas non plus indifférent. Et je conservais précisément et précieusement, en dépit de la surveillance jalouse dont j'étais l'objet, la carte que vous m'aviez adroitement remise. Nanti de votre adresse, j'eus vite fait de mûrir mon plan. Pouvais-je en toute sécurité m'abandonner à l'amour que je commençais à éprouver pour vous? Ne me décevriez-vous pas? Le romanesque ne m'effraie pas. Pourquoi, sous le couvert d'un travestissement masculin, n'apprendrais-je pas à vous connaître? Et ce que je projette, je le réalise aussitôt. Et voici pourquoi, mon doux ami, rentrant chez vous ce soir, vous trouvâtes sur un banc, affaibli et mourant de faim, un jeune homme que votre bon cœur vous fit recueillir. Et je ne regrettais point ma décision. Conchita n'acheva pas son récit, car un baiser arrêta les paroles sur ses lèvres. Chapitre 8. Dans la jungle. J'avais hâte d'entendre le récit des aventures de Conchita, et Conchita elle-même ne semblait assez favorablement disposée à me les narrer. Aussitôt le dîner terminé, je me rendis avec elle dans sa chambre, où je fis disposer sur un plateau quelques liqueurs douces et des cigarettes parfumées. Les rideaux étaient tirés, les lampes versaient une faible lumière tamisée, et l'atmosphère incitait aux longues heures d'intimité. Comme le sultan Shériar, fort amoureux de belles histoires, je m'apprêtais, confortablement allongé sur un divan encombré de tapis, aux côtés de ma charmante conteuse, à déguster le récit qu'elle allait me faire. Conchita trempa ses lèvres dans une tulipe de cristal remplie d'alkermes, et jetant câlinement ses bras nus autour de mon cou, commença ainsi. « Vous avez certainement deviné, mon chéri, que je ne suis pas né sous votre paisible climat de France. Votre ciel gris, qui pèse toujours sur vos villes comme le couvercle d'une boîte dans laquelle s'agitent de turbulentes fourmis, me rappelle constamment que je suis parmi vous une étrangère. Ah, le beau soleil de mon pays natal, et que j'aimerais paraisser avec vous à l'ombre des palmiers, sur le sable chaud des plages javanaises, ou dans un petit bungalow entouré de bambous et d'hibiscus, devant des côtes ombragées de manguiers, d'acacias et de lianes onduleuses. Je ne sais pas ce que l'on de Java évoque à votre imagination, à vous autres pâles européens. Je sais que moi, je garde de mon pays un souvenir enchanté. L'air y était d'une douceur que vous ne connaissez pas dans vos ingrates campagnes. Pouvez-vous vous figurer un ciel d'inaltérable bleu turquoise, des vallées étroites plantées d'arbres géants, des fougères arborescentes, des bousses plus merveilleuses que des tapis persans, emplis de vols d'oiseaux aux ailes de feu, cacatoès et cassons manqués? Et pourtant, de tristes aventures devraient gâter le souvenir de mon existence dans l'île ensoleillée. Vous n'avez pas affaire, mon amour chéri, à une jeune innocente à qui la vie a uniformément souri. Lorsque vous me vîtes dans ce bar plutôt équivoque du Lion Rose, dansant au milieu du désir grossièrement exprimé des rustres, vous figuriez-vous que vous aviez devant vous la fille d'une Française et d'un grand chef de Java? Je ne vous expliquerai pas la suite de quelles aventures ma mère, qui appartient à une famille de colons malouins, fut épousée par le chef du clan de Samaramaïrk, le vénéré Merek. Vous me faites rire quand je vous entends, vous autres Européens, disserter sur l'antagonisme de race. Il n'y a pas eu d'union plus parfaite que celle de mon père et de ma mère. Nous habitions dans une vallée ondoyante qui descendait en pente douce vers la mer. Je ne pense pas qu'il fût possible de mener une vie plus édénique que la nôtre. Le climat est là-bas si clément que le travail est réduit au strict minimum. Mon père et ma mère passaient la plus grande partie de leur temps en plein air. La nature dans la région que nous habitions, grâce à l'exposition du sol, présentait les caractères propres aux régions tropicales et tempérées. C'est-à-dire que le rivage, sur toute sa longueur, était bordé de palmiers aux cimes élevées, tandis qu'au fur et à mesure qu'on avançait vers les terres, les chênes, les trembles, les sureaux, les acacias embrumés alternaient avec les azalées et les rhododendrons aux pétales éclatants. C'est un spectacle qui ne manque jamais d'étonner les voyageurs que celui de ces tapis de mousse moelleuse, ponctués de taches jaunes, garances pourpres et célestes des renoncules, des scabieuses, des anémones, des violettes, des pervenches, de toutes les fleurs qui émaillent avec le plus d'agrément vos prairies et vos bois au printemps. Les jeunes filles du village sur lesquelles s'étendait la domination de mon père nous accompagnaient le plus souvent dans nos promenades. Les serviteurs étendaient des coussins à l'ombre des chênes ou des châtaigniers, en général près d'un ruisseau, et les vierges, de couronnes, mitres ou d'hibiscus dans les cheveux, entremêlaient les gracieux pas de danse. Mon père tirait alors d'un coffre de bois, de santal, des colliers, des bagues de clinquants, qu'il offrait avec une sereine majesté à la ballerine dont la grâce l'avait le plus séduit. Et comme toute l'aristocratie javanaise, mes parents étaient fervents de jeu. Mon père, lorsqu'il n'était point dehors, restait étendu avec des amis dans la plus grande pièce de notre demeure, sur de vastes divans, et jouait inlassablement aux cartes ou suivait passionnément les évolutions des marionnettes et les ombres chinoises que des comédiens ambulants manœuvraient. C'est dans cette atmosphère voluptueuse que je grandis, mon amour. Aucun souci ne me troublait. Mes parents comblaient mes moindres désirs, et les sujets de mon père se prosternaient devant l'enfant que j'étais, avec les égards que l'on témoigne à une jeune reine. Qu'aurais-je pu désirer de plus? Je ne savais pas à cette époque que les dieux jalousent le bonheur des hommes. Hélas, je ne devais pas tarder à l'apprendre à mes dépens. Je n'avais alors pas plus de perspicacité que les gazelles qui venaient brouter les feuilles de sureau dans ma main. Si mon éducation était soignée au point de vue de la danse, de l'art du maquillage et du costume. Elle était plutôt négligée en ce qui concerne l'instruction proprement dite. Mon père professait un mépris non dissimulé pour toutes les préoccupations intellectuelles, et je poussais ainsi, sans la moindre inquiétude de l'avenir. Et ce qui causait mon bonheur devait aussi amener ma perte. D'une naissance obscure, j'aurais connu une félicité peut-être moins vive, mais à coup sûr plus continue. Noblesse oblige. Mon père était le premier de son clan. Aussi nourrissait-il pour moi de grandes ambitions. Oh, je vous assure, mon chéri, que je m'en serais volontiers passé. J'étais devenue une grande jeune fille, et l'on s'accordait, quelque pénible que soit cet aveu pour ma modestie, à me reconnaître une certaine beauté. À une fête du village, où avec les autres vierges, j'avais dansé devant le vieux chef voisin invité par mon père, je fus remarqué par l'un d'eux. C'était un vieillard puissant. Son autorité l'emportait même sur celle de mon père, parce qu'à ses pouvoirs de chef de clan s'ajoutait ceux de pontife religieux. Certaines familles javanaises conservent de très antiques traditions mystérieuses. Les sorciers y sont extraordinairement craints et respectés. Je les ai vus accomplir des phénomènes absolument inexplicables. Leurs connaissances magiques, n'en doutez pas, sont considérablement plus développées que celles de vos plus savants professeurs. Et ce vieux Baldam passait pour l'un des mages les plus redoutables du pays. Il lui suffisait de désirer la mort d'une personne pour que celle-ci dépérît aussitôt. Ne riez pas, mon amour, je n'invente rien. Bantam façonnait en cire un petit cœur représentant celui de la personne qui avait encouru sa haine, le transperçait de coups d'aiguille, et accomplissant d'autres pratiques que j'ignore, il faisait succomber sa victime dans d'affreux tourments. Le jour où le vieillard demanda officiellement ma main à mon père, fut un jour de deuil génial et général pour notre maison. Mon père avait d'abord été flatté d'une semblable démarche, mais ma pâleur à l'annonce de cette nouvelle et les reproches de ma mère ne tardèrent pas à lui faire comprendre toute l'ignominie qu'il y aurait à sacrifier une jeune fille à un vieil homme au quasi centenaire. Il me suffisait de voir Bantam pour que tout mon sang se glaçât dans mes veines. Figurez-vous un squelette ambulant. Sa tête, qui n'était pas plus grosse que celle d'un enfant, était entièrement chauve, et sa figure anguleuse n'était faite que de cavités. Cavités aux joues, cavités aux orbites dans lesquelles roulaient deux yeux d'un éclat glacial, analogue à celui du regard des reptiles. Sa peau, jaunie comme celle d'un vieux tambour, était ridée comme un champ labouré, et sa mâchoire inférieure remuait d'un tremblement convulsif dont la seule vue suffisait à me faire frissonner. Un désespoir sans bornes m'envahissait à la pensée que cet homme pourrait m'approcher, et j'étais bien décidé à me soustraire par tous les moyens que je pourrais employer à l'abominable sort qui m'était réservé. La puissance de Bantam fit longtemps hésiter mon père. Il temporisait, il n'osait refuser catégoriquement ma main, prévoyant les catastrophes qui s'ensuivraient. Mais l'affection paternelle l'emporta sur la crainte, et il se résolut bientôt à entrer en lutte ouverte avec le vieux chef que son refus avait exaspéré. Mon père et ses sujets étaient braves, mais que peut la bravoure contre le nombre et surtout contre une force mystérieuse? La démoralisation régla bientôt dans notre clan. Les plus vaillants avaient succombé. Mon père gisait, atteint par une flèche empoisonnée. Déjà les hommes de Batam atteignaient notre demeure. Déjà les flammes léchaient les murs de bambou. Ma mère, très débile, s'était évanouie près du corps de mon père, et les gémissements des vierges, mes compagnes, alternaient avec les clameurs sauvages des guerriers qui commençaient à piller la maison. Je compris d'un seul coup que le bonheur avait à jamais déserté mon foyer. J'imaginais mes parents sans vie, mon vieux logis incendié. Je me représentais captif de l'horrible vieillard et bientôt, puis encore, son épouse. Alors, enveloppé dans le manteau sombre d'une servante, enjambant les débris fumants de ma maison, sans même pas jeter un dernier regard d'adieu sur ces lieux où la félicité m'avait souri, je m'enfuis à perdre haleine, loin, loin, loin devant moi. Il vous serait sans doute impossible, sous vos climats inhospitaliers, de pouvoir vivre une semaine en plein champ. Mais à Java, où la température est tiède et où le sol clément offre à qui veut les cueillir les fruits les plus succulents, la chose est facile. Et comme une bête traquée, je demeurais étendu toute la journée, caché dans les lianes, grignotant des oranges, des dattes, des mangues ou des grenades, car ce n'était que l'obscurité noyée d'ombre le paysage que je me risquais à errer sur la plage voisine, tâchant de découvrir un bateau capable de me transporter loin de cette île, désormais contraire à mon bonheur. Je savais bien que Bantam ne reculerait devant aucun crime pour attraper la malheureuse proie qui lui avait échappé. Il me fallait à tout prix m'éloigner. La Providence me vint tout de même en aide. Une nuit, scrutant à mon habitude l'horizon marin, j'aperçus un vapeur s'approchant de la côte. Impossible de laisser s'échapper une pareille chance de salut. J'allumai aussitôt sur la plage un grand feu, et saisissant un tison enflammé, je l'agitai violemment en l'air. Mes signaux furent aperçus, et je ne tardai pas à entendre le clapotement des rames manœuvrées en cadence. Un canot venait se rendre compte de la nature des signaux lumineux aperçus du steamer. Le navire était français, et comme de ma mère j'avais retenu quelques mots de notre langue, je m'en servis pour exposer ma détresse aux matelots et les supplier de m'emmener avec eux. J'étais jeune, j'étais malheureuse. On eut pitié de moi. Que vous dire de mon voyage? Le steamer débarquait à Marseille. Je me trouvais un beau jour sur les quais de ce port bruyant, agité. Tout était nouveau pour moi. J'avais l'air effarouché d'une petite sauvagesse. Que faire loin, si loin de mon pays natal, dans une cité dont je connaissais à peine le langage des habitants, sans appui, sans protecteur, sans une pièce de monnaie. Je faillis bien souvent désespérer. Pour vivre, je transportais des couffes d'orange ou de citron, je mangeais un morceau de pain au soleil, et je couchais la nuit à la belle étoile sur des balles de coton. Et à ma détresse physique s'ajoutait une angoisse morale. Bien que des lieux et des lieux me séparassent de Java, je tremblais comme une feuille au vent à l'idée de tomber entre les mains du vieux Batam. Sa sorcellerie me faisait peur. Comment être jamais tranquille avec un pareil démon pour ennemi? J'avais beau, dans ce port grouillant de gens de toute nationalité, me perdre, me fondre volontairement dans la cohue. J'avais beau éviter de passer deux fois par le même chemin, je me sentais surveillé, épié, poursuivi. Il me semblait que deux yeux attentifs me persécutaient. Je ne dormais plus, je ne mangeais plus, je dépérissais. Je ne pouvais échapper à mon destin. Un témoin implacable observait tous mes gestes. Quel cri atroce je poussais lorsqu'un matin, me réveillant, j'aperçus penchée sur moi une face grimaçante, tandis qu'en javanais, une voix me disait « Je vous tiens maintenant, Bantam sera content. » « Mais vous êtes incrédule, mon chéri. Vous ne comprenez pas comment le vieillard a pu retrouver ma piste. Mais ne vous ai-je pas dit son formidable pouvoir de sorcier? Les dédoublements de personnalité n'étaient-ils pas un jeu pour lui? Ne communiquait-il pas mystérieusement avec les esprits? Son occulte puissance lui avait rapidement permis de savoir la direction que j'avais prise. Après quoi, il envoya à ma recherche son plus fidèle serviteur, Kandang, qui me raconta par la suite lui-même les péripéties qui suivirent mon départ de Java. Vous dire les vexations dont je fus l'objet de la part de cette âme damnée du vieux sorcier, j'y renonce. Kandang avait pour mission de me ramener à Java coûte que coûte, et je dus maintes fois menacer mon bourreau de mon poignard pour éviter d'être embarqué de force. Je parvins de m'échapper à Paris, hélas, toujours accompagné de mon affreux Sigisbé. Au fait, vous le connaissez, mamie ?
Moi ?
Fis-je interloqué. Eh oui, l'individu avec qui le soir de notre première rencontre vous vous collerez quand d'angle ne font qu'un. Plus que si j'étais ma propre maîtresse, il est jaloux de moi, tellement il se soucie des intérêts de mon maître infernal. Mon ami, j'ai peur. Mais que ferons-nous s'il me retrouve ?
Ne craignez rien, Conchita, répondis-je. Paris n'est pas Java. Et les sorciers dans la ville lumière perdent en général leur pouvoir.
Chapitre 9. Les ennemis mystérieux. La camaraderie que j'éprouvais pour Domingo s'était transformée pour Conchita en amour. Faute d'avoir pu se satisfaire, cette passion s'était accrue en intensité, comme ces ressorts longtemps comprimés qui se détendent soudain. La possession de Conchita me l'avait rendu plus cher encore. Je sais que lorsqu'on est vraiment amoureux, on croit toujours aimer pour la première fois. Il est certain que je n'avais jamais rencontré femme dont la peau s'accorda mieux avec la mienne, ni dont les désirs vibrassent plus parallèlement avec les miens. Ceux qui comparent la passion à un envoûtement ont raison. Quoi que je fisse, j'avais l'âme obsédée par la pensée de Conchita. Lisais-je, son fin visage souriait sur les pages du livre. Commençais-je une conversation, sa voix légère sonnait à mes oreilles. Tentais-je de me plonger dans de sérieuses réflexions. La jeune femme m'apparaissait dans une pose voluptueuse qui mettait en déroute mes plus austères idées. L'univers n'existait à mes yeux qu'en fonction de Conchita. Les lieux où elle était point me semblaient rudes. Les fruits que je mangeais en dehors de sa présence, les fleurs que je respirais loin d'elle, me paraissaient sans saveur et sans parfum. L'amour, lorsqu'il vous occupe à ce degré, est une obsession pathologique. J'avais perdu toute volonté, et l'existence que je menais était bien faite pour annihiler à tout jamais ma personnalité. Je ne sortais presque plus. Je vivais cloîtré dans mon logis en perpétuelle admiration devant mon ami, comme un moine fervent dans sa froide cellule au pied de son crucifix. Conchita s'entendait à merveille à m'envoûter, tant par sa constance présente auprès de moi et par sa câlinerie que par la merveilleuse atmosphère de rêve et d'amour dont elle m'entourait. Je t'en ai assez dit, mon petit, sur mon goût pour l'exotisme, pour que tu te doutes du plaisir que je pouvais éprouver à entendre Conchita lorsque, à Langui, je reposais dans ses bras, me racontait des histoires toutes chaudes de soleil et toutes bruissantes du vent parfumé dans les hauts cocotiers. Mon imagination avait tant de fois dans mon enfance vagabondé dans les contrées lointaines que c'était une aubaine inespérée pour moi, d'avoir précisément pour maîtresse une fille de ces terres ardentes. Tous mes rêves d'exotisme se trouvaient réalisés d'un coup. Conchita, par son seul aspect physique comme par ses récits étrangement colorés, symbolisait le mystère de l'inconnu et du romanesque. Elle était pour moi une excellente excitatrice de songerie, d'autant plus qu'elle m'avait initié à une pratique qui favorisait particulièrement le vagabondage de la pensée. Conchita appartenait à un pays où, ainsi qu'elle me l'avait dit elle-même, le respect de la paresse était à élever à la hauteur d'une institution. Bien doux pays. Les aristocrates javanais, qui jouissent de quelques fortunes, consacrent le plus clair de leur temps aux longues fumeries. Sans doute leurs pieds ne sont-ils pas étendus nonchalamment sur un tigre, et sans doute n'eussent-ils point de crâne d'enfant, mais ils fument l'opium du soir au matin, et du matin jusqu'au soir. Conchita, habile à flatter mon penchant au far niente, n'avait point tardé à installer dans mon logis silencieux une fumerie complète. Une natte jonchée de coussins m'était été étendue dans mon bureau, et je demeurais ainsi des heures entières, allongé auprès de ma petite lampe, dont la flamme claire donnait à la pièce une allure de chapelle. Les rideaux, naturellement tirés, ne laissaient filtrer aucune lumière, accentuant encore le caractère quasi religieux de mon appartement. Mon amie, en prêtresse attentive, officiait, roulant délicatement au-dessus de la flamme des boulettes mordorées et de la drogue qui, en cuisant, répandait comme un encens une subtile et indéfinissable odeur de chocolat, de vanille et de café grillé. Conchita, attentive à mes désirs, me tendait la pipe et je suivais dans l'air obscurci les lourdes spirales de la fumée qui s'élevait lentement et planait au-dessus de moi comme un nuage tutélaire. Cette pièce, dont j'avais orné les murs de tenture, m'apparaissait vêtue d'un prestige inaccoutumé. Je ne voyais plus les quelques tableaux familiers à mes yeux, je ne reconnaissais plus les livres tant de fois feuilletés. Conchita parlait, et de sa voix chantante, elle me racontait les étonnantes péripéties de son existence mouvementée. Mon esprit, que la fumée rendait plus subtil, traduisait immédiatement en images les mots que j'entendais, de sorte que, couché dans mon logis parisien, je me croyais perdu dans les forêts vierges ou dans la brousse aux lianes pourprées. Parfois, quand mon corps, gorgé de drogue, paraissait allégé de son poids, Conchita se drapait dans des écharpes de soie, toute sa poitrine mate jaillissait comme un odorant calice de chair et dansait pour moi voluptueusement, plus flexible et plus souple qu'un rameau agité par le vent. Enveloppée d'une brume opiacée, Conchita devenait une Salomé perverse, dont mon œil, en extase, caressait les hanches recourbées et les seins plus polis que les plus beaux coquillages. Quelle béatitude m'envahissait alors! J'abaissais les paupières et à travers les cils à demi-clos, je m'enchantais du spectacle entreaperçu et encore embelli par les prestiges de mon imagination surexcitée. Rien n'aurait pu m'arracher à ma sérénité, et j'entendais, comme venant de très loin, d'un monde auquel j'étais étranger, les plaintes qu'au milieu de sa danse, mon ami laissait échapper. « Mon amour chéri, j'ai peur, ne soyons pas trop insouciants. Ah, si tu savais quel péril est suspendu sur notre tête !» Peu m'importaient ces gémissements, ma passion était trop profonde pour qu'elle pût aussi facilement être troublée.